Donc, je voudrais débuter par trois remarques, des remarques d'ordre à la fois personnel et, d'une certaine façon, français libre. La première remarque, c'est que si je m'intéresse depuis longtemps au Free French, s'il m'a été donné de les rencontrer au fil de recherches diverses et variées, je ne suis pas, mais alors pas du tout, un spécialiste de la question syndicale. Et c'est donc en béotien, mais un béotien curieux, attentif aujourd'hui, que je m'adresse à vous en cette fin d'après-midi pour donc 40 minutes. Deuxième remarque liminaire, l'avantage, l'immense avantage de l'aventure complètement folle sur le papier, mais au bout du compte magistrale lancée par le général de Gaulle en juin 1940, et que l'historien ou l'historienne qui se penche sur cette aventure devient rapidement une sorte de monsieur ou madame Jourdain, une sorte de spécialiste sans le savoir. Se pencher, comme je l'ai fait, sur le développement des relations entre France libre et résistance intérieure conduit tôt ou tard à croiser Yvon Moranda, enfin Léon Yvon Moranda. Accompagner Brossolette à Londres, puis à Alger, débouche forcément, entre autres, sur une rencontre avec le groupe Jean Jaurès ou avec des prémices de projets algérois sur lesquels je reviendrai. S'interroger sur le parcours du général de Gaulle dans le cadre d'un dictionnaire mène nécessairement à Henry Hawke. Dernier exemple, envisager l'entreprise française libre aux États-Unis et plus encore vue des États-Unis, comme je le fais depuis quelque temps, impose la rencontre d'Adrien Tixier. Alors tout cela me conduit à ma troisième remarque liminaire, une remarque simple, presque basique, mais je pense essentielle. En résistance intérieure et extérieure, je fais partie de ceux qui refusent de séparer les deux, toutes les cartes sont potentiellement rebattues. Tel qui faisait ceci se trouve embarqué dans une activité totalement différente. Tel qui pensait cela se lance dans une évolution intellectuelle et politique grand style. Limité à des cénacles réduits, et on l'a vu aujourd'hui dans certains cas, des idées vont trouver tout d'un coup une audience et un écho. C'est ce qui fait le grand intérêt d'une journée comme celle d'aujourd'hui, travailler à mettre un peu d'ordre dans un maquis par essence très compliqué. C'est ce qui fait sa difficulté aussi, et c'est ce qui me conduit à vous faire une annonce ferme et définitive. Je refuse catégoriquement de conclure. Ah non, mais catégoriquement. Il me semble en effet que cette journée d'études nous suggère ou nous confirme de fructueuses pistes de travail, davantage que de pauvres conclusions. Après avoir lu et entendu ce qui nous a été présenté aujourd'hui, après avoir écouté les débats, il me semble que plusieurs champs de réflexion peuvent se dégager. Des champs qui, en fait, prennent la question syndicale en compte, mais souvent, bien souvent, la dépassent. Et je voudrais en évoquer cinq, au moyen de cinq mots que je vais libeller, au moyen de cinq mots. Début, composition, influence, au pluriel, projet, au pluriel, héritage, singulier, au pluriel. Début, composition, influence, projet, héritage. Donc, premier champ de réflexion, les débuts. Après avoir entendu notamment Laurent Douzou et Sébastien Albertelli, ou encore en songeant à ce que Christine Lévis-Touzé, si elle avait pu venir, aurait probablement développé, s'impose plus que jamais la nécessité d'étudier les débuts de la France libre, et pas seulement dans ses relations avec la résistance intérieure. Par-delà les premières structures qui ont été mises en place, par-delà le CNF, dans ces différents avatars, il nous, historiennes, historiens, appartient donc de considérer l'improvisation des commencements, le foisonnement des initiatives, le rôle souvent évolutif joué par les uns et par les autres, les tentatives plus ou moins fructueuses, les dissensions internes, Sébastien Albertelli en a évoqué quelques-unes. Alors bien sûr, la tâche de celles et ceux qui s'intéressent au début est complexe, car bien souvent, les acteurs et les actions de ces débuts ont été éclipsés par ceux et celles de la suite. Ou bien, par exemple, dans le monde syndical, nous l'avons vu, en raison des logiques d'appareil. Nous avons eu un bon exemple donné par Laurent Douzou lorsqu'il a évoqué le rôle d'Edouard Hény pour la propagande diffusion. Mais donc, cette concentration sur les débuts en est, je pense, néanmoins essentielle. Il nous appartient également de prendre en compte les porosités initiales. Des porosités, par exemple, mises en évidence par Gilles Morin au fil de sa communication. De considérer aussi les interrogations qui ont occupé les Français libres pendant deux bonnes années. Interrogations sur les modalités d'action, interrogations également sur celles et ceux, syndicalistes mais pas seulement, qui allaient mettre ces actions en œuvre. Et il me semble que la communication de Sébastien Albertelli nous a fourni un très bon exemple de ces interrogations, des tentatives qui en ont découlé, à propos du sabotage, à propos de l'apolitisme ou au contraire d'une action en direction des partis et des syndicats, etc. Tout cela, à mon avis, pour déboucher finalement, en tout cas sur les premières années, pour les premières années, sur un pragmatisme bien compris. Pragmatisme bien compris qui est, me semble-t-il, une marque de fabrique française libre. Et puis, de façon plus large, c'est une forme de dégagement que je vous propose, le sabotage, arme des faibles, tel qu'évoqué, présenté par Sébastien Albertelli, nous renvoie évidemment à la situation de la France libre, frêle et skiff, lancée dans une guerre mondiale. Et donc aux révisions, révisions en matière de méthode, de moyens, d'objectifs, révisions drastiques que les FFL, que les Français libres, ont dû accomplir pour exister quand même, malgré leur petit nombre, malgré leurs pauvres moyens, dans le maelstrom de 1940-41-42. C'est par exemple cette politique de la présence que Sébastien a évoquée. On peut aussi songer, et ce serait, à mon avis, au moins un bon bouquin à faire là-dessus, à la présence des Français libres dans le dispositif allié, pas seulement le dispositif militaire, l'ensemble du dispositif allié, c'est-à-dire la France libre considérée par les alliés et non pas l'inverse, comme on a souvent tendance à le faire, nous, Français. Alors, j'ai quelques exemples. J'ai un thésard qui est en train de terminer sa thèse donc sur le Tchad, sur le ralliement du Tchad et sur l'évolution du Tchad pendant la guerre. Et c'est très étonnant de voir à quel point tout ceci est fait en lien avec les Britanniques, mais en dépendance quasi totale au début par rapport aux Britanniques et avec des gens qui décident de rallier, pas forcément pour des raisons de grand patriotisme, mais parce que des considérations économiques s'imposent. On est complètement dépendant des Britanniques. Je connais un autre historien irlandais qui s'intéresse à la présence des forces militaires françaises libres à l'intérieur des forces militaires alliées. Très intéressant. On pourrait multiplier les exemples, mais donc l'idée, c'est de déplacer la focale et de considérer la France libre vue des alliés et non pas l'inverse. Deuxième champ de réflexion, la composition. Deuxième mot que j'ai employé. Laurent Douzou nous l'a explicitement rappelé ce matin, et une bonne part de ce qui a été dit aujourd'hui l'a encore prouvé. Je dirais mettre à jour, analyser, comprendre si possible le phénomène résistant impose de se pencher sur la résistance d'en bas. Alors, loin de moi l'idée, bien sûr, de balayer ce que, notamment, Guy Crivio-Pisco nous a exposé cet après-midi, a fortiori lorsqu'après lui, on examine la présence des syndicalistes dans les organismes qui émanaient du CNR, lorsqu'on examine la composition du CNR en septembre 1944, et ce ne sont que de minuscules exemples. Loin de moi l'idée aussi d'invalider les travaux tout à fait remarquables sur les organisations de résistance, aussi bien au sein de la France libre que de la résistance intérieure. Mais décidément, on l'a vu encore aujourd'hui, l'approche par le haut ne suffit pas. D'où l'idée de déplacer la focale et de considérer les choses au ras de la résistance, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui au ras de la France libre. Et ce faisant, au moins pendant les deux premières années, nécessité d'accorder toute leur place aux individualités. Moi, j'ai été frappé de voir qu'aujourd'hui, il s'agissait de la question syndicale, tous les intervenants nous ont, j'allais dire, infligé, mais non, c'est absolument nécessaire, une litanie de noms. Un tel faisait ceci, un tel s'engageait comme ça, un tel avait le contact avec une telle, etc. etc. Donc l'idée, c'est de se reconcentrer sur la résistance d'en bas et bien évidemment de se concentrer sur les individualités. Tout à fait utile s'agissant du syndicalisme, mais je dirais tout à fait utile de façon générale. Des individualités et donc aussi des rencontres. Essentiel, le premier contact. Essentiel, la discussion dans le monde résistant. Et là, je vous renvoie par exemple à l'évocation par Laurent Douzou de ce qu'a pu être la première rencontre entre Dastier et Jouot. Deux personnages quand même très très différents, deux parcours extrêmement différents. Et cette rencontre, non seulement a eu lieu, mais c'est très bien passé. On a vu la suite. Donc voilà, discussion, rencontre, individualité. Individualité, au passage, salut au talent d'un Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Salut, après Laurent Douzou, au talent d'un Léon Yvon Moranda, sacré bonhomme. Et puis, il y a quelqu'un qu'on a assez peu évoqué, mais qui aurait pu l'être, qui sera peut-être dans le cadre d'autres études. C'est Adrien Tixier qui est là. Son nom est sorti deux ou trois fois, mais il n'a pas été tellement évoqué. Mais voilà, il y a quelques très très grands personnages comme ça qui émergent côté France libre, qui mériteraient un peu plus encore que ce qui leur a été accordé aujourd'hui. Troisième champ de réflexion, et la toute fin de la discussion qui vient d'avoir lieu l'a encore prouvé, les influences. Le mot influence a été utilisé il y a encore quelques minutes. Car la France libre fut, on le sait bien, un melting pot. Qu'il l'ait voulu ou non, les Free French se sont trouvés très durablement soumis à des influences nombreuses, variées, puissantes. Et notre journée d'études a démontré ô combien l'importance de ce système d'influence. Alors, nous avons eu le cas du général de Gaulle. Il a été évoqué tour à tour par Jean-François Muratiol, par Tristan Lecoq, et puis très en détail, successivement par Laurent Lannes et par Guy Crivopisco à la fin de sa communication. Un cas tout à fait intéressant. Un grand Charles, je l'appelle comme l'appelaient les Français libres à l'époque, manifestement, un grand Charles qui, en matière syndicale, et à partir de ses deux discours fondateurs à l'Albert Hall et puis à Oxford, va emprunter ensuite, on l'a vu, aux socialistes, aux radicaux, aux démocrates chrétiens français, mais forcément aussi, cela a été dit il y a quelques instants, à ce qu'il entend, à ce qu'il observe un peu partout où il lui est donné d'aller pendant la guerre. Un grand Charles qui, quatre années durant, se trouve en quelque sorte en stage de formation permanente. Influence donc essentielle pour quelqu'un comme de Gaulle, mais pas seulement. On peut aussi songer aux influences positives qui se sont données libre cours au sein du CNR et des organismes qui en ont dépendu. Et je nous renvoie ici à la communication à nouveau de Guy Crivopisco. Mais ces influences ont été également des oppositions, comme on l'a vu aujourd'hui. Opposition ouverte, par exemple le groupe Jean Jaurès et son journal France, pour nos questions du jour. Opposition larvée, opposition sans en être complètement, Paul Vigneault. Un Paul Vigneault qui est quand même quelqu'un de tout à fait intéressant, parce que je trouve absolument fascinante sa capacité à produire des analyses extrêmement fines, fouillées, par moments visionnaires, et en même temps son incapacité à évoluer par rapport au cœur de la France libre, par rapport à de Gaulle, son incapacité aussi, comme le disait Jean-François Muratiol au moment du déjeuner, à voir qu'il a dans l'angle mort un tout petit détail, c'est qu'on est en guerre. Je rends l'expression angle mort à Jean-François, mais je trouve je la reprends totalement à mon compte. Donc des oppositions ouvertes ou larvées, ou bien des divergences absolues, mais qui sont néanmoins des influences, bien évidemment. Et là, je nous renvoie à la communication de, notamment de Gilles Morin. Et donc, autre dégagement, je rêve, alors il faudrait que ce soit une grande étude ou un grand livre ou d'autres innombrables colloques, enfin importants colloques, une étude qui, en matière de syndicalisme et plus largement de travail, analyserait de façon systématique et circonstanciée les influences subies, exploitées, rejetées par la France libre en matière d'idées, de pratiques militantes, de liens avec les partis politiques, etc. Une étude qui commencerait par Londres, capitale de l'Europe en exil, Londres, dans lequel se trouvaient des syndicalistes européens expatriés qui, bien évidemment, ont discuté avec les Français libres. Une étude qui se concentrerait également sur ce qu'ont fait les autres gouvernements en exil, qui n'ont pas été évoqués aujourd'hui parce qu'on n'en avait pas le temps. Mais voilà, les autres, quid des autres syndicalistes européens qui étaient à Londres, quid des gouvernements en exil. Et puis après, comme l'a dit Tristan Lecoq ce matin, il faudrait franchir l'Atlantique, « the other side of the pond », comme disent les Britanniques. Donc, franchir l'Atlantique et élargir à l'Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Deux dernières remarques à propos de ces influences, pour signaler que, bien évidemment, sous le coup de ces influences, les êtres ont évolué. Les individualités que j'évoquais tout à l'heure ont évolué. Leurs doutes, leurs questionnements, leurs réponses, provisoires ou non, ont évolué. Et cela explique ces évolutions expliquent la difficulté qu'un grand nombre d'entre eux ont eu à revenir en France quand ils avaient survécu. Oui, le voyage de retour n'a pas forcément été simple pour un certain nombre de Français libres en raison même de ces évolutions. Quatrième champ de réflexion, et je vais être de plus en plus rapide, donc vous voyez, je ne ferai pas 40 minutes, mais ce n'était pas le but, les projets. Lorsqu'on se penche sur l'histoire de la France libre, et cette journée d'études l'a amplement démontré à son tour, on est rapidement frappé par le souci politique et social manifesté de bout en bout par nombre de Free French, à commencer par le premier d'entre eux, c'est-à-dire le général de Gaulle. Et ce, dès avant la formation du Comité national français en septembre 1941. Cette préoccupation, nous l'avons vue également aujourd'hui, est particulièrement manifeste à Londres en 1942 et jusqu'au printemps 1943. Jean-François Muratiol, dans son introduction, nous a rappelé, après Eric Jennings, que cette préoccupation sociale, je mets beaucoup de guillemets, a trouvé de très solides limites en Afrique, ce qui mériterait d'être étudié en détail, ou à tout le moins d'être inclus dans une étude plus large sur la question syndicale et la France libre. En juin 1943, dans le cadre du CFLN, un commissariat au travail et à la prévoyance sociale est confié à Adrien Tixier, que j'évoquais tout à l'heure. En novembre 1943, les affaires sociales sont ajoutées à l'ensemble, toujours sous Tixier. Et puis en août 1944, parmi tous les secrétaires généraux qui sont nommés, il y en a un au travail, c'est René Sanson. Bref, cette préoccupation sociale, cette préoccupation syndicale également, cet intérêt pour le travail, sont présents tout au long de la guerre. Et donc, ce qui manque, ce qui me semble manquer aujourd'hui, mais ce sera l'occasion d'une prochaine journée d'étude, c'est en matière syndicale et de travail, quelque chose qui présenterait, et Jean-François l'a un petit peu évoqué, ce qu'ont été les projets réformateurs impulsés par la France libre à Alger. Même si à Alger, on n'est plus techniquement dans une France libre complètement pure, mais néanmoins, quid de ces projets réformateurs impulsés par la France libre à Alger ? Quid de ce que Jean-François a également désigné ce matin comme la scène algéroise, comme lieu d'expérimentation très concrètement, et la scène algérienne également comme lieu d'expérimentation. Et puis, par-delà l'évolution de la pensée et de la parole gaullienne, que Laurent Lannes nous a évidemment détaillée, il conviendrait de se pencher à nouveau sur les individualités à Alger, sur les groupes de travail, sur les cénacles officiels, le CFLN, le GPRF, l'Assemblée consultative provisoire et ses différentes commissions, etc., etc. Voilà, donc, il me semble que là, des prolongements, de solides prolongements pourraient être apportés à cette journée en se penchant sur ce qu'ont été concrètement les projets développés à Alger avant le grand retour vers la France de l'été ou de la fin de l'été 1944. Et puis, le cinquième et dernier champ de réflexion, eh bien, ce sont les héritages. Ils ont été évoqués, donc je les nomme juste quasiment pour mémoire. Ces héritages, eh bien, ce sont évidemment la suite logique et directe de mon quatrième point sur les projets. Une étude un peu systématique pourrait être utile concernant la mise en œuvre des projets conçus donc, à Alger, sous l'impulsion notamment des Français libres. Étude donc concernant l'action conduite tout au long des mois de la libération. Là, il s'agit de poursuivre dans la voie tracée par Laurent Lannes et par Crivo-Pisco, pardon. Voir ce qui se passe au sein des comités départementaux de libération, voir ce qui se passe au fil de la reconstruction, au fil du rétablissement de l'ordre et de la légalité républicain par le GPRF. Et puis, last but not least, ces études et analyses complémentaires pourraient également porter à nouveau sur les héritages de la France libre, à proprement parler, en 1945 et 1946. Guy Crivo-Pisco en a donné quelques éléments. Dans le cadre du RPF, Laurent Lannes, et le cas échéant, sous la 5e République, pardon, et à nouveau, je vous renvoie à la communication de Laurent Lannes. Voilà. Donc, cinq temps, cinq objets, cinq thèmes, cinq champs qui permettraient de poursuivre cette fructueuse journée d'études. Il me semble que, à la suite de Patrick Carismendi, d'Erwan Le Gall, qui ont dirigé un ouvrage collectif pour une histoire de la France libre, à la suite des concepteurs du colloque puis de l'ouvrage collectif « Les Français libres et le monde », à la suite également des organisatrices pardon, du colloque et bientôt du dossier spécial de revue « Beyond the Gaulle and Beyond London », nouvelles approches sur l'histoire des Français libres et de la résistance extérieure, nos intervenants ont ouvert ou réouvert aujourd'hui des pistes indiquées des voies. Très clairement, et c'est heureux, beaucoup reste à faire, par celles et ceux qui s'intéressent à la France libre, et pas seulement en matière syndicale, pas seulement concernant les syndicalistes, les syndicats et la question syndicale. Et puis, je voudrais vous proposer, juste pour terminer en 20 secondes, de rêver un peu. Comme l'a dit Tristan Lecoq ce matin, la France libre, et nous le savons tous ici, c'est le sel de la terre. Personne ne pourrait contester une chose pareille, et puis surtout, c'est Tristan qui l'a dit tout à l'heure. Alors rêvons que l'esprit de la France libre, l'esprit du sel de la terre, anime celles et ceux qui, finalement, vont réfléchir à l'évolution de ce qu'on appelle le modèle social français. Rêvons que ces femmes et ces hommes osent, comme les Français libres à l'époque et comme les résistants, penser librement, regarder ailleurs, accueillir les influences vertueuses, s'attacher à l'essentiel et laisser tout le reste pour construire leurs projets, pour finalement agir au service du meilleur. Je vous remercie.